9h27, c'est notre club de lecture avec Émilie. Bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes?
Tout d'abord, un roman qui s'appelle Les altruistes. C'est de Andrew Ridker. Donc, c'est un écrivain américain, tout jeune, 25 ans. Premier roman. Donc, on suit dans ce roman-là quatre membres de la famille Alter. C'est une famille de classe moyenne américaine. Donc, il y a la mère Francine, qui est une thérapeute pour couple. Les enfants, qui sont aujourd'hui des adultes, donc Maggie et Ethan. Et le père de famille, Arthur, qui est un prof d'université rempli d'amertume. Et la mère est un peu le liant dans cette famille-là, assez dysfonctionnelle, et à sa mort, le reste du clan va prendre un peu des routes séparées, mais les enfants héritent d'un énorme montant d'argent qu'elle avait caché à son mari toute sa vie. Sa fille, elle, refuse de toucher à cet argent-là. Elle vit pauvrement, par conviction. Son fils, lui, au contraire, va vivre dans le luxe à New York, et 2 ans après la mort de Francine, le père, qui a plus d'argent, rappelle les enfants dans l'espoir de leur quêter un peu d'argent. Donc, c'est ce week-end-là qui se déroule dans le livre avec, à travers tout ça, quelques flashbacks. Mis à part Francine, je dirais que les autres membres de la famille ne sont pas particulièrement aimables. Elles sont des gens qui subissent un peu leur vie, mais ce qui est étonnant à travers tout ça, c'est que je n'ai pas été capable d'abandonner la lecture. Ce qui est quand même rare, tu sais, quand les personnages ne sont pas aimables.
Ben, surtout quand c'est l'ensemble des personnages.
Oui.
Des fois, t'as un vilain dans la pièce, mais quand la pièce est remplie
de
vilains...
Tout le monde n'est pas très aimable, mais bref, je me dis peut-être que l'idée d'un baby boomer qui quête l'argent des millennials, c'est quand même amusant. Puis je me dis, est-ce que c'est ça qui m'a tenue à travers le tout? En fait, c'est vraiment que la réflexion derrière tout ça, c'est qu'est-ce
Parce qu'habituellement, tu vois l'inverse.
Exact. Donc ça, je pense, c'est une des prémisses qui est intéressante, mais je pense aussi c'est qu'il y a un vrai souffle d'abord dans l'écriture. Et la réflexion derrière tout ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire être une bonne personne? Donc cet écrivain-là, Andrew Ridker, je pense qu'on va en réentendre parler. Il se fait beaucoup comparer, entre autres, à Jonathan Franzen. Moi, ça m'a rappelé aussi le film Beauté américaine. Tu sais, quand le vernis craque là, sur la famille parfaite. Donc, ça s'appelle Les altruistes. Et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture dans cette famille-là.
Mais ça fait quelques livres où je vois que la personne qui, en principe, par la description de tâche, est une méchante personne. Et plus tu avances dans la lecture, plus tu te rends compte que, dans le fond, c'est pas une méchante personne. Qu'elle a peut-être pu poser des gestes ou qu'elle a, bon, au fil de sa vie, mais que fondamentalement, ça peut être aussi quelqu'un de très correct.
Et, ou qui a pris des mauvais chemins aussi, ou des
aussi.
Gens qui se mentent à eux-mêmes. Mais effectivement,
à travers
les couches, effectivement, c'est une tendance qu'on prend.
Parfait, parfait. Alors, le deuxième, ça s'appelle Civilisation.
Oui, ça, là, c'est une lecture assez costaude. Okay? C'est de Laurent Binet, qui est un auteur français. Et si vous aimez les romans historiques, il faut absolument que vous mettiez la main sur ce livre-là. C'est une uchronie, donc ça est un récit fictif qui a un point de départ historique, mais à travers lequel on imagine une fiction. Donc, c'est ce qu'il a fait, Laurent Binet. Lui, en 2015, il participe à un salon du livre au Pérou. Il lit un peu sur l'histoire des Incas et il en apprend, entre autres, sur le dernier empereur Atahualpa, qui est mort, capturé en 1531 par les Espagnols. Et là, il se demande, et si c'était l'inverse qui était arrivé? Si les Incas avaient capturé un roi en Europe. Et il s'est posé la question, quels étaient les ingrédients? En fait, pourquoi ce ne sont pas les Incas, finalement, qui ont été les colonisateurs? Et à son avis, il en est arrivé à cette réflexion-là, il leur manquait le cheval, le fer et les anticorps. Donc, son livre, en 4 parties, réécrit l'histoire. D'abord, à l'an 1000, les Vikings, il y a la fille d'Éric le Rouge qui n'arrêtera pas à Terre-Neuve et va descendre jusqu'à Cuba, où elle va se mêler avec un peuple autochtone et en leur transmettant quelques virus par la bande, ils vont commencer à développer des anticorps, vont découvrir également le fer. Un peu plus tard, dans la deuxième partie du livre, on se retrouve en 1492, Christophe Colomb débarque en Amérique, mais ne repartira jamais. Et en 1531, les Incas envahissent l'Europe. Et ça, c'est la troisième partie du livre. Je te dis, c'est vraiment savoureux. Donc, ces hommes-là qui débarquent d'abord au Portugal après un tremblement de terre. Donc, d'une certaine façon, on les voit un peu arriver comme les messies. Et c'est vraiment intéressant parce que dans chacun des chapitres, il écrit vraiment avec la langue de l'époque. Donc, quand les Incas débarquent en Europe, leur façon de décrire ce qu'ils voient, bon, ils voient des hommes qui sont tondus. En fait, ce sont des curés. Bon, ils boivent du breuvage noir, c'est le vin. Les livres, ce sont des feuilles qui parlent. Et là, il va se faire traduire « Le prince de Machiavel ». Et là, le roi Inca va s'inspirer du prince de Machiavel pour conquérir tranquillement l'Europe. Donc, c'est assez éclaté comme vision, mais vraiment, c'est passionnant comme lecture. Il y a beaucoup de détails, donc tu sais, je peux pas tout résumer, mais il faut pas se laisser décourager parce que c'est sûr que, comme je dis, c'est une lecture qui est un peu plus costaude, mais si vous aimez les livres historiques, ça a gagné des prix en France. Donc, ça s'appelle Civilisation. C'est vraiment, moi, je pense, un livre qui peut vous plaire.
Et, mon Dieu, la troisième proposition.
Oh oui!
Madame Petrosky.
Oui, la critique n'a jamais tué personne. Écoute, c'est pas une biographie, ce sont des mémoires. Elle le dit elle-même, Nathalie Petrosky. Mémoire donc de son métier de journaliste. D'ailleurs, tu en fais partie à un certain moment parce qu'elle a le poste de chroniqueuse culturelle. Je te rassure, ce n'est qu'une page.
Je ne mérite pas plus.
Lise Bissonnette en a un peu plus, disons. Donc, c'est vraiment sa carrière en filigrane, mais une partie de l'histoire de la presse écrite au Québec parce qu'elle a été au Journal de Montréal, au Devoir et à la presse. J'avais hâte de lire parce qu'évidemment, je partage le même métier que Nathalie, le métier de journaliste culturelle, et j'ai pas été déçue. Évidemment, Nathalie revient sur ses critiques. Et moi, ce que j'admire de cette femme-là, c'est cette sorte de sans-filtre. Elle a une certaine candeur, Nathalie. Tu sais, elle aurait pu nous épargner de ses mauvais coups. Pas du tout. Elle assume tout ce qu'elle a fait. Quand elle a été de mauvaise foi, elle le dit. Elle dit « Je charriais, mais j'étais sincère dans mon charriage. » Et ça m'a étonnée parce que moi qui... on va le dire, assez à l'opposé là, de l'approche de Nathalie Petrosky dans la critique.
Totalement.
Mais à certains moments, je me suis quand même reconnue dans ce qu'elle disait. Et c'est sûr que tout ce qui est les coulisses là, des salles de nouvelles, c'est quand même assez passionnant. Et comme je disais, un peu quelques désaccords qu'elle a eu avec Lise Bissonnette. Et également, j'ai été étonnée de voir à quel point il y avait aussi une question de féminisme, mais aussi de conciliation travail-famille. Son plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu un deuxième enfant. Par allégeance qu'elle avait à son travail. Et ça, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce côté-là. Donc, vraiment, je n'ai pas été déçue, moi, par la critique « N'a jamais tué personne ». Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais j'admire quand même cette façon-là qu'elle a de revenir sur les événements qui ne sont pas nécessairement les plus glorieux pour elle. J'ai vraiment dévoré ce livre-là. Donc, la critique « N'a jamais tué personne », à ma grande surprise, je me suis reconnue. En Nathalie.
J'ai de la misère à voir comment tu as pu te reconnaître en Nathalie.
Mais c'est parce qu'il y a des moments où elle admet finalement qu'elle a erré à certains points.
Non, mais je me souviens des trucs qui dépassaient le cadre, je dirais, de la chronique habituelle, là, qui sont devenus des débats. Là.
Oui.
Avec Annie Girardot, c'était assez spectaculaire, ça
oui.
aussi. Là.
Et ça, évidemment, tu sais que je ne tomberai pas là-dedans, mais c'est plutôt dans le point où il y a un moment où elle fait un constat, où elle dit, c'est vrai, dans le fond, qu'il y a un certain moment où j'étais tout le temps dans ma subjectivité et où j'aurais dû prendre un pas de recul en me disant, ben la critique, à quoi ça sert? C'est aussi de mettre en contexte, puis ça se peut que tu n'aimes pas quelque chose personnellement, mais tu peux bâtir autour de ça. Donc, dans ce chemin-là, je me reconnais. Et la vérité, c'est qu'on a
non,
beaucoup
mais tu as le droit
reconnu...
de ne pas aimer les westerns, par exemple,
oui.
les films, puis de dire, celui-là, pour X raisons, est quand même... un film de ce genre bien fait, des gens qui aiment ça vont bon.
C'est... Oui, ben tout à fait. Moi, j'ai toujours dit le bon spectacle pour la bonne personne. Nathalie, je pense, en début de carrière, n'était pas exactement dans ce chemin-là. Mais surtout, en fait, ce qui ressort, c'est que oui, on retient ses coups de gueule, mais c'est une fille qui est quand même une passionnée de culture. Puis c'est ça qu'on retrouve, je trouve, dans ce livre-là. Alors, c'est là où, un peu, je me retrouve en Nathalie Petrosky.
Et nos, en fait, les propositions, les trois, vous allez retrouver les coordonnées sur le site web de l'émission. 9h36, pause. Après, on vient avec le sujet de Tribune téléphonique.